fait soif. On va aller essayer de rattraper Max au niveau du taux d'alcoolémie. Marceau s'en vient vous accompagner. On se reparle demain, puis ça va être vendredi.
Salut!
Bye!
Boulevard 102.1 gratis.
Spotify 10,99 par mois. Patreon 5$. Abonnement au câble 55$. Journal 24$. Boulevard 102.1
gratis.
La meilleure musique. Les podcasts, tout ce que tu dois savoir sur l'actualité, puis des vidéos de Reg sur nos médias sociaux. Bye-bye, OnlyFans. Tout ça pour la grosse somme de 0$.
Gratis.
Application gratuite, web radio gratis, FM gratis. Boulevard 102.1. La vraie solution à l'inflation.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée.
Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102 à Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée. C'est un 60 minutes de feu, comme d'habitude, qu'on va passer, puisque Joey Aubé de Génération Ambition est en studio avec nous. Joey qui a eu une couple d'entrevues là, dans les derniers jours. Je me suis dit, il va peut-être être fatigué ce soir, mais non, il a de l'air en forme, Joey Aubé. Salut!
Yes sir, merci de m'avoir invité.
Ben oui, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout le monde voulait une petite partie de Joey derniers jours?
Je vais dire comme Frank, a star is born quasiment. Au début, je riais de ça, mais là, c'est parti. Écoute, je m'en plains pas, mais ça a commencé vendredi dernier. C'est ça, avec Génération Ambition. Il y a une Madame Drolet, Alexandre Drolet de Radio-Canada, ouais. M'a envoyé un message pour dire c'est ça. On fait un reportage par rapport à expliquer la montée du conservatisme chez les jeunes au Québec et au Canada.
Parce elle n'a pas dit de l'extrême droite, là.
Non, elle s'est gardée une gêne quand même, peut-être parce qu'elle voulait justement que j'y aille. Là.
Mais Alexandre fait vraiment une bonne job, soit dit en passant à Radio-Canada.
Elle n'est pas méchante, c'est ça. Et elle voulait avoir mon avis par rapport à ça. Et on a parlé une bonne quinzaine de minutes. Elle m'a posé 2-3 questions. Ça a bien été. Puis elle m'a dit que c'est ça. Elle dit lundi ou mardi prochain, ça va être publié. Parfait. Là, au début, je me disais, ça va sûrement être pas si pire. Ils vont sûrement prendre une petite partie de tout ça. Ils vont avoir sûrement d'autres intervenants aussi. C'est tel que tel. Mais j'embarque dans la théorie que certains ont avancé. Je pense que le reportage à l'origine devait être moins saucé qu'il l'était. Mais je pense que l'histoire de le documentaire Alpha de Télé-Québec, tout le monde en parle, les compagnies. Là, on dirait que Radcan, ou du moins la majorité des médias, ont comme voulu mélanger tout ça ensemble. Puis faire un genre de melting pot pour dire que les jeunes conservateurs égale masculinistes.
Masculinistes égale
patriarcal. Puis c'est comme tabarouette.
Toxicité.
Fait que c'est ça. Fait que le petit reportage qu'il y a eu, moi, j'ai passé même pas 15 secondes dessus. Malgré que, autant que mes propos sont tels que tels, mais la phrase, l'intervenant qui a passé avant moi, la phrase que dit, puis ce que je dis après, en tout cas, on essaie pseudo de me faire dire quelque chose que j'ai pas dit, mais en tout cas, ça, c'est tel que tel. Par la suite, c'est ça, suite à cet article-là, Richard Martineau m'a invité à son émission à Cube Radio pour en parler, ça a super bien été. Et là, c'est ça, on enregistre ça ce soir, mais ce soir à LCN, je passe avec Emmanuel Latraverse en émission Le Bilan avec ma co-porte-parole Héloïse Coulombe aussi pour parler de ça. Fait que ça arrête pas, mais écoutez, ouais. On a du fun.
Ben oui, puis on va en parler d'ailleurs de ce fun-là que vous avez. Parle-moi de la Génération Ambition. Bon, c'est une idée que vous avez eue à 2 ou 3 de mémoire?
Oui, ça a commencé avec moi, mais j'ai eu de l'aide, bien évidemment, aussi. Ça va faire 1 an, sinon pas, dans les prochaines semaines. C'est un mouvement jeunesse conservateur indépendant. À l'origine, puis je vais être 100% transparent, ça a commencé au Parti conservateur du Québec, que je milite toujours d'ailleurs, c'est que je voulais fonder la jeunesse du parti, mais en parlant à beaucoup d'autres membres jeunes du PCQ, ils m'ont dit « ouais, mais on trippe pas tant ces jeunesses, on voit ce qui se passe dans les autres partis politiques au Québec, puis c'est souvent... Il y a comme un côté infantilisant derrière ça. T'sais, on prend tout le temps ces jeunes-là comme une sorte de banque de bénévoles gratis, de candidats poteaux qu'on fait semblant de les écouter 1 fois ou 2 ans, après ça, on les écoute plus. T'sais.
Ouais.
On veut vraiment être pris à part entière. Genre, OK, ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place? Puis je dis, pourquoi pas un mouvement transpartisan au-delà du PCQ qui donne une voix à tous les jeunes hommes et jeunes femmes au Québec qui se disent de droite, soit droite fiscale ou droite plus nationale, comme mettons la Bob Côté ou quoi que ce soit. Et c'est l'objectif qu'on a. Et c'est justement aussi pour donner justement une voix à ces gens-là, parce que je voyais dans les médias traditionnels, quand on parlait d'enjeux des jeunes, souvent les jeunes qu'on allait faire des vox pop, souvent c'était des jeunes de la grande région de Montréal, souvent des jeunes très à gauche, souvent même éco-anxieux, tu sais, très... ils ont plusieurs avec quasiment peur que la planète explose en 2 ans et demi. Ouais. Et je trouvais que c'était, oui, ces jeunes-là existent, je nie pas leur existence, mais ce ne sont pas l'entièreté de la parole, de la volonté des jeunes du Québec.
On va enlever un peu la magie là, de la télé, là, mais puis des journalistes aussi qui choisissent à qui ils veulent parler.
Ah oui, ils choisissent les experts à qui ils veulent parler. Ouais, hashtag les experts, bien évidemment.
Je me souviens d'un article, c'est-tu Simon Clich ou Jean-François Clich dans Le Soleil qui mentionnait que bien souvent les articles étaient écrits avant. Et par la suite, il y avait des témoignages qui s'arrimaient, qui allaient en lien avec leur article. Puis j'avais trouvé ce segment-là dans Le Soleil super intéressant. Mais oui, effectivement, tu sais, il y a des journalistes qui vont toujours vers le même type de personnes parce que ces gens-là sont à peu près sur le même, je te dirais, le même échiquier politique que le journaliste.
Parce que c'est facile à faire. Tu sais, c'est pas, t'as pas d'effort à faire du tout. Commencer à fouiller pour trouver des jeunes de droite au centre sur l'île Eugénie, qui est l'île de Montréal. Oublie ça, tu sais. Tandis que tu t'en vas à l'UQAM tout de suite, on va parler à quelques jeunes pour dire qu'on a parlé à des jeunes, puis ils décident d'attendre. Fait que c'est pour ça. Le but, c'était vraiment de rééquilibrer la parole des jeunes dans l'espace public, puis donner une voix. Parce que, tu sais, moi, je suis un gars de région, je suis un gars qui vient de Montmagny. J'habite désormais à Québec, mais c'est de là que je viens. Fait que, tu sais, la majorité du monde que je connais dans ma tranche d'âge, qui sont de la région, et pas seulement. Et qui pensent comme moi, je trouve qu'il y avait très peu de paroles dans l'espace public. Puis garde, on peut dire que c'est quasiment mission accomplie, parce que depuis une semaine, c'est ça, les interventions médiatiques vraiment commencent à se faire de plus en plus dans les médias traditionnels. Donc tranquillement, on commence à être de plus en plus nombreux. Notre site web est en ligne depuis plusieurs mois, mouvementgénérationambition.com, si vous voulez le consulter. Vous pouvez prendre votre carte de membre, d'ailleurs, pour rejoindre le mouvement. On commence tranquillement, mais sûrement, mais le but, c'est vraiment donner une voix à ces gens-là, puis que les médias, par la suite, aient comme un réflexe de nous consulter. Qui peuvent consulter les gens de gauche aussi, il n'y a pas de problème avec ça, on respecte la démocratie, mais qui nous consultent également aussi pour nous donner notre avis ou notre contrepoids vis-à-vis de telle ou telle politique. Et ça, c'est un projet plus à l'avenir, ça va nous prendre davantage de financement et plus de gens, mais vraiment être davantage présent, ben en fait, être présent dans les campus universitaires et au cégep. Parce que je vous dirais, puis je l'ai vécu, j'ai fait mes années du cégep, Québec solidaire a vraiment la main mise sur ses sorties, leur territoire, il n'y a personne qui ose aller là ou très peu. Puis autant, on n'est pas un parti politique, Génération Ambition, mais avoir un certain contrepoids, je pense en démocratie comme le Québec, c'est sain.
Ouais, c'est des jeunes de quel âge à quel âge?
On accepte de 18 à 34 ans. Par contre, on a quand même certains échelons. To be fair, notre squelette continue à être construit tranquillement, pas vite. Ça commence à se réaliser. Le but, c'est que pour vraiment avoir son membership, sa carte de membre, c'est à partir de 18 ans. Par contre, pour ceux qui ont, mettons, 16 ou 14 ans, il y a une possibilité de venir, par exemple, dans nos événements puis nous donner, mettons, un peu de jus de bras sans nécessairement être membre, mais ces gens-là n'ont comme pas de pouvoir de vote dans certaines décisions, des trucs comme ça. Fait que c'est plus. Puis en même temps, un des buts d'aussi de Génération Ambition, à part de parler des nouveaux jeunes de droite, c'est aussi davantage politiser la jeunesse qui l'est de moins en moins. Puis je les comprends, c'est pas très reluisant écouter ça. T'sais, moi, c'est parce que je suis passionné de ça, puis je l'écoute en longueur de journée parce que ça fait partie de mon travail. Mais c'est vrai que d'un point de vue extérieur, pour un monsieur, madame, tout le monde ou un jeune de 15-16 ans, écouter les débats à l'Assemblée nationale.
C'est de la maladie mentale.
Ah, c'est le plus grand.
OK. Fait que c'est de 18 jusqu'à 34 ans. Après 34 ans, vous les sacrez dehors, c'est ça?
Ben, sacré dehors. Ouais. Je pense que c'est un peu comme tout. Là, il y a certaines ailes jeunesse des autres parties qu'eux autres, c'est à partir de 30 ans. Nous autres, on a pris 34 ans parce que, tu sais, moi, j'ai eu 30 ans cette année, malgré que j'allais plus jeune un peu. Surtout en plus que, contrairement, le 30 ans de ma génération n'est pas le même que le 30 ans de la tienne, j'ai l'impression. Fait que je pense qu'il y a aussi un peu ça également.
On a vraiment de l'air. T'sais, moi, je me rappelle, quand je suis né, je regardais les gens de 40, 50 ans. Écoute, il était déjà très vieux, là.
Oh oui.
Puis tellement, il avait de l'air tellement vieux à 40-50 que quand on les a recroisés vers 80-85, il avait de l'air pratiquement plus jeune, ou c'est comme s'il n'avait pas changé pendant 40 ans.
Non, c'est ça.
Puis ma génération à moi, on ressemble plus aux gars de 40 ans de l'époque, puis vous autres, c'est encore pire. Je sais pas ce qu'ils mettent dans la bouffe, là.
C'est ça, mais aussi, il y avait beaucoup justement, parce que la raison pourquoi c'était 34, c'est aussi parce qu'il y avait beaucoup de jeunes justement entre 30 et 34 ans qui voulaient bien évidemment nous donner un coup de main, puis disent « Non, mais là, j'ai 31, là, qu'est-ce que je fais de ça? » Fait qu'on se dit « OK, on va mettre ça à 34 maximum. » Puis c'est ça, on verra ce qui verra.
Le fun.
Mais c'est pas figé dans le béton. Si dans 5 ans, on se rend compte que c'est majoritairement des jeunes en bas de 30 ans, on changera la règle pour ceux qui vont être là, c'est ça.
Dans l'article, on parlait que votre groupe voulait rallier les jeunes aux valeurs conservatrices. Est-ce que c'était vrai, ça?
Ben, rallier les valeurs... Encore là, c'est très galvaudé. C'est quoi les valeurs conservatrices, t'sais? Parce que, regarde, avec tout ce qui se passe dans le discours médiatique...
Est-ce que tu peux être conservateur et progressiste?
encore là, je fais mon Jordan Peterson. That depends what you mean by progressive. ça dépend ce que tu veux dire par progressiste. Mais le tu sais, parce que depuis une semaine, on mélange tout. Oui. Je veux dire quasiment avec l'histoire des masculinistes puis de valeurs traditionnelles. Là, on parle de religion puis de Bible puis de ci puis de ça, d'entrepreneuriat puis tout. On mélange des tomates puis des ananas. Là. Ça a juste pas d'allure. T'sais, moi, valeur conservatrice. Personnellement, moi, ben, tu sais, c'est pas nouveau. Je suis ouvertement gay. Fait que bien évidemment, tout ce qui est droit des femmes, droit de vote, droit accès à l'avortement, mariage homosexuel, bien évidemment, je suis en faveur de ça. Et je pense que c'est le cas pour une majorité, du moins, des gens que je représente. Pour ce qui est des valeurs conservatrices, sans vouloir nécessairement prendre la citation de Pierre Poilievre, mais en même temps, c'est pas un trademark, le fameux gros bon sens, je pense que ça englobe beaucoup ça. Autant au niveau, justement, de la méritocratie. Oui, travailler dur, mais en même temps, être très débrouillard pour soi-même. Vraiment, dépendre le moins possible des autres pour plus être capable de s'épanouir autant financièrement que socialement.
Donc, ce qui peut s'apparenter à la droite économique.
Oui, ben dans mon cas, c'est ça. Mais pour certains qui sont plus droite nationale, ils parlent de valeurs conservatrices, ils parlent bien sûr de l'identité de la nation, ils parlent de la défense de la langue française, beaucoup de débats reliés à l'immigration également. Fait que ça ratisse très, très large. Fait que valeurs conservatrices, je pense que c'est pas nécessairement... Parce que souvent, quand on dit conservateur, c'est souvent genre c'est quelqu'un qui veut rester dans le passé puis qui veut comme figer dans le temps. Non, c'est pas nécessairement ça. Ça l'était à une époque, to be fair. Il y en a qui étaient vraiment bornés, surtout dans une certaine époque plus droite religieuse. Mais moi, personnellement, je suis athée. Puis autant que je dis, OK, let's go, on avance avec le progrès, mais à une vitesse respectable pour que monsieur, madame, tout le monde puisse capable d'avancer en même temps et pas trop vite. Parce qu'à un moment donné, c'est bien beau le progrès, mais avancer pour avancer sans aucunement savoir où c'est qu'on s'en va, on s'en va dans le mur. Selon moi, c'est ça que je pense beaucoup. Et aussi, bien évidemment, regarder ce qui s'est fait avant pour ne pas répéter les erreurs du passé et pas tout renier ce qui s'est fait dans le passé en disant qu'aujourd'hui, on est les illuminés puis le présent, c'est la seule place qu'il faut focusser. Enfin, je pense que c'est surtout ça, mais ça peut être très large. Écoute, on pourrait faire des épisodes philosophiques pendant 2h30 là-dessus en masse. Là.
Qu'est-ce qui différencie le Québec du Canada? Je regarde pour ce qui est des intentions de vote. Là, au Canada, Pierre Poilievre passe partout, là, tempête. Puis au Québec, Justin Trudeau est encore hyper populaire. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'au Québec, on a tendance à se méfier des conservateurs? Puis c'est de moins en moins vrai parce que de plus en plus, Pierre Poilievre commence à prendre la place là, dans les sondages, de ce que je comprends.
Il est premier chez les 18-34 ans.
Ouais. Pourquoi on est comme à la remorque des décisions de l'Ouest canadien?
Sans vouloir faire de l'âgisme, je pense que c'est vraiment générationnel.
Fait qu'on est d'une province plus vieille, là-dessus, t'as raison.
Oui, ouais. Et on le voit clairement que, puis tu sais, c'est pas nouveau, mon but, c'est pas de pointer du doigt. Puis je le sais qu'il y a des gens qui pensent comme nous autres, qui sont dans cette tranche d'âge-là, tu sais, je fais pas nécessairement, tu sais, je vais être bien spécifique là-dessus. Mais sachant que, justement, on a une génération plus vieillissante qui est majoritairement faite à partir des baby-boomers, qui ont souvent moins accès, ou du moins sont plus ou moins sur Internet. Certains le sont, d'autres ne le sont pas. Ils sont encore sûrement la dernière génération et une partie de la génération après eux, en partie, qui sont encore pluggés à journée longue vers les médias traditionnels, comme les médias de Québécois ou Radio-Canada ou les médias de masse, la télévision finalement.
Ouais.
En termes d'information, c'est la seule source. Ils ne vont pas sur les réseaux sociaux, ils ne vont pas sur les sites d'articles ou même les sites de nouvelles internationales pour voir ce qui se passe. Je pense que, justement, le fait que le climat médiatique québécois est très hostile au conservatisme, principalement Radio-Canada, mais Québécois a son côté aussi plus en faveur du Bloc québécois et du Parti québécois dans certaines de ses lignes d'éditorial, fait que, disons qu'on dépeint beaucoup plus, je pense, au Québec, dans les médias francophones, Pierre Poilievre comme le bonhomme sateur. Et autant que ça pogne beaucoup moins que les jeunes, parce qu'on voit clairement ce qu'il dit, puis on voit ce qu'il fait, puis on voit les publications sur les réseaux sociaux.
Comme les jeunes s'informent autrement aussi.
Exactement. Ouais. Tandis que quand tu as juste Chantal Hébert à Radio-Canada ou d'autres qui disent que justement... Tu sais, c'est drôle parce que Chantal Hébert avait écrit une chronique dans le Toronto Star en juin 2023. Fait que ça fait plus d'un an de ça pour dire... le titre de son article, c'était en anglais, mais je vous le traduis, c'était « Pierre Poilievre perd son temps à devenir premier ministre du Canada ». Et tout ce temps-là, tous ces médias-là disaient « Il va voir qu'il se ressent dans son discours, ça n'a pas de bon sens, non, non, il est trop radical », mais il a continué sur sa ligne, il ne les a pas écoutés, puis il va sûrement faire des scores, sinon plus historiques, ouais. que Brian Mulroney a fait dans les années 80, sa tendance se maintient.
Il fut un temps où Chantal Hébert, c'était une journaliste incroyable, extrêmement extrêmement respecté. Puis dans les dernières années, je ne sais pas pourquoi, mais il a pris une tangente très Justin Trudeau. Ah non, c'est,
vraiment. Depuis que Jean-Lapierre est décédé, on dirait que ça l'a comme cassé.
Peut-être. Puis là, à chaque fois qu'il donne son opinion, c'est pratiquement du n'importe quoi. Des sources m'indiquent que Justin Trudeau serait possiblement le meilleur prochain premier ministre. Quoi? T'es où?
Puis rajouter à ça, puis gars, ça fait un peu d'actualité. Je ne sais pas si tu as vu passer ça. La présidente de la FTQ, Magali Picard, était dans l'émission dans les médias avec Marie-Louise Arsenault. Elle, mais c'est pas nouveau, mais elle a dit qu'elle a peur de Pierre Poilievre, elle a dit que c'est un gars d'extrême droite. Encore là, j'attends encore sa définition d'extrême droite.
Sais-tu pourquoi qu'elle le considère comme extrême droite?
Ah, très facile.
Parce qu'elle est tellement loin dans l'extrême gauche que tout ce qui est à droite d'elle devient de l'extrême.
Il y a ça, mais il y a aussi le fait que les centrales syndicales comme la FTQ ou la CSN ont le monopole de la gestion au Québec et des gouvernements.
Ils sont tellement puissants qu'ils ont peur de se faire enlever des acquis.
Elle a dit carrément, tu sais, on va pas dire aux gens pour qui votent, mais on va le dire, votez pas conservateur. J'étais comme OK, mais sérieusement, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? OK, parfait, vous aimez pas Pierre Poilievre, ça n'a pas de bon sens, c'est l'apocalypse s'en vient. OK, qu'est-ce qu'on fait? On reste avec un gouvernement de Justin Trudeau qui va encore doubler la dette du pays puis qui va endetter les 3-4 prochaines générations. On continue, on va voter au pouvoir Jack Mitt, je suis contre les ultra-riches, mais je porte une Rolex puis des complets à 2000$, signe. Ouais. Sérieusement, c'est tellement... Moi, je trouve ça vraiment... Je suis outré et je trouve ça frustrant pour les syndiqués de la FTQ qui travaillent majoritairement dans la construction, des hommes plus conservateurs souvent, que même elle sait puis elle l'a avoué que la majorité de ses membres vont voter conservateurs aux prochaines élections, voter pour Pierre Poilievre. Mais elle continue avec l'argent de ces cotisations-là qui n'ont pas le choix de payer parce qu'à cause de la formule rent, c'est obligatoire de syndiquer, ça peut pas te désaffilier. À faire ces campagnes-là anti-Pierre Poilievre. Puis regarde, on peut l'aimer ou pas l'aimer, Pierre Poilievre. Ça reste un politicien de carrière. Là. C'est pas le Saint-Esprit descendu du ciel. Là. Mais je me dis, ces gens-là ont aucunement... T'sais, l'obligation, le côté obligatoire de la syndicalisation fait carrément ça. Parce que si tu, justement, un leader syndical décide du jour au lendemain d'avoir un discours complètement à l'inverse de la majorité de la pensée de leurs membres qui le payent des cotisations, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils ne peuvent pas arrêter de cotiser, c'est illégal. Ils ne peuvent pas dire, je vais m'en aller vers une centrale syndicale qui représente réellement mes valeurs. Ils ne peuvent pas, c'est illégal. Ou c'est un monopole, la FTQ, au niveau de la construction. Il n'y a pas le droit à la compétition. Les centrales syndicales, dans la situation actuelle, sont 100 fois plus antidémocratiques que notre système parlementaire, to be fair.
Puis je te mets une hypothèse. On regarde dans l'Ouest canadien, c'est très Pierre Poilievre. Au Québec, les jeunes veulent du Pierre Poilievre, mais les vieux sont un peu hésitants. Ça se peut-tu qu'on ait tellement d'acquis au Québec, qu'on le sait, qu'on a des acquis, surtout pour ce qui est du panier de services, qu'on n'est pas capable de les laisser partir? Ça va tellement bien avec Justin, puis dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, anyway, on sera plus là, après nous le déluge. Ça se peut-tu que ce soit ça? Ces gens-là ont eu la chance d'avoir des belles jobs. Alors, ils ont travaillé fort comme tout le monde, mais ils ont eu des gros fonds de pension et tout ça. Puis là, maintenant, ils sont sur le point, bon, ils sont à la retraite, ils sont sur le point de partir dans 10, 15, 20 ans. Ils se disent, regarde, moi, je veux mener une belle vie jusqu'à la fin. Puis mes petits-enfants, ils s'organiseront. Moi, je me suis organisé. Ils vont être capables de s'organiser. Ça se peut-tu qu'ils soient très, très selfish dans leur façon de penser?
Je pense qu'il y a un peu de ça parce qu'il y a tellement... On a eu un filet social au Québec et au Canada réellement plaqué or pour les générations, plus, mettons, les baby-boomers, mais pas seulement eux autres. Mais on n'a pas fait les mesures nécessaires ou le ménage une fois de temps en temps des finances publiques ou même de la fonction publique ou même l'exploitation de nos richesses ou de faire de la création de richesses autre que taxer plus le monde pour que ces fameux programmes-là ou ce filet social-là perdurent dans le temps pour les prochaines générations. C'est prouvé, c'est pas de la hyperbole que je fais. Ma génération va être la première de l'histoire de l'humanité à vivre plus pauvrement que celle de ses parents. Que moi, j'ai 30 ans, puis mon père était plus riche quand lui avait 30 ans aujourd'hui, tu sais. Puis là, c'est ça, on va pas venir à Magali Picard, tu sais, là, on a peur de nos filets sociaux, puis des cibles de ça. Ouais, mais le filet social, il y a tellement de mailles dedans que c'est rendu quasiment des draps de lit, tellement il n'y a plus de trous, là. Tu sais, c'est même plus un filet, c'est par-dessus, 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 par-dessus. Puis là, tu as les libéraux fédéraux, ils disent, hey, là, faut pas que Pierre Poilievre rende au pouvoir. Il va enlever notre programme universel dentaire, le programme du NPD qui ont poussé à cause de leur alliance avec Jack Mixing, alors que le pays est doublement endetté. Comme ça n'a pas de bon sens. Je suis désolé. Moi, tout, j'aimerais ça pas payer pour mon dentiste. C'est vrai que ça coûte un prix de fou, mais on peut pas se le permettre. Tabarouette, regardez, finance, ça va nous sauter d'en face. Puis toute cette dette-là, tu c'est rien que de la dette. C'est pas grave, ça augmente à tous les jours. C'est vos petits-enfants qui vont payer pour ça. Ouais. Là.
François Legault se pose des questions à savoir pourquoi les immigrants se sont tous propulsés vers l'Est plutôt que vers l'Ouest canadien. Mais regardez le filet social. Là. Si vous étiez un immigrant, vous arrivez au Canada, regardez le filet social qu'on a au Québec. Là. C'est clair que lui va se dire, regarde ça, c'est
le nouveau monde. Ben, ça tire en France, ils ont le même problème. Ils ont un filet social excessivement généreux pour les nouveaux arrivants ou pour ceux qui ont le droit du sol, quelque chose. T'sais, à la seconde que le nouvel arrivant arrive, ses enfants sont pris en charge par l'État pour ce qui est de l'éducation ou pour ce qui est du système de santé. Il y a plein de programmes qui leur donnent justement plusieurs chèques pour bien starter aussi pour ce qui est de l'habitation. Fait que c'est un débat depuis plusieurs années, donc c'est pas nouveau. Mais non, c'est ça, parce que... On augmente la taille de l'État considérablement, autant fédéral qu'au provincial, puis on pense que ça va être infini. T'sais. C'est ce que j'appelle dans mon jargon personnel la méthode Ginette Renault. Là, t'sais. Un peu plus haut, un peu plus loin, je veux aller encore plus loin. T'sais, tout le temps, on rajoute une nouvelle agence, on rajoute des nouveaux fonctionnaires, on augmente la taille de l'État, on augmente le nombre de gens. Puis, écoutez, je comprends les gens qui nous écoutent et qui travaillent dans la fonction publique. Vous êtes gâtés, vous êtes chanceux. Hey, poste confirmé, syndiqué bord en bord, pension de vieillesse à prestation déterminée, c'est merveilleux. Mais le problème, c'est que le restant de la province, ils se battent le derrière pour justement payer les taxes et les impôts pour payer vos fonds de pension. Ça va être insoutenable dans l'avenir, littéralement. Puis ça donne pas... Si, à toutes les fois, la solution, au lieu de faire les réelles réformes qui sont nécessaires, puis vraiment prendre le taureau par les cornes, puis justement défier les centrales syndicales qui sont royalement les gardiens du temple de cet État-providence-là en ruine, puis les défenseurs du statu quo, puis ces gens-là se disent « OK, il n'y a plus... » Au lieu justement de créer de la nouvelle recherche ou faire les réelles réformes, tout le temps on lui dit « Ah, mais ça va prendre une nouvelle petite taxe ici, ça va prendre une nouvelle contribution de la part des gens. » Mais c'est pas grave, Yann, c'est juste 2 cafés par jour. Moi, mais le problème, c'est que j'ai déjà 250 autres cafés en arrière de moi. Là. Ouais. La tension artérielle commence à être forte, mon médecin de famille commence à être assez stressé, merci. Mais je suis chanceux, j'en ai un, moi.
Peut-être qu'un jour, on aura l'occasion de mettre le doigt sur tous les bobos puis les régler, mais je sais pas si t'écoutais cet après-midi, Jean-François Fortin qui était à une conférence de presse du RTC.
Non.
Puis il y a une trentaine de gestionnaires qui sont au RTC depuis plusieurs mois, qui n'ont pas d'employés sous leur gouverne, alors que c'est leur job de le faire. Puis le RTC, dans les audits de performance à la grandeur du Québec, arrive avant-dernier.
Ouais, 9e, ouais.
Et la boss du RTC, qui est aussi conseillère à la Ville de Québec, elle s'est fait poser la question par Jean-François Fortin. « Oui, mais vous êtes avant-dernier, là. Qu'est-ce que vous pensez de ça? » Puis elle a dit, nous, on a fait des choix. Dans une entreprise privée, là, quelqu'un qui est responsable de l'entreprise, je ne sais pas, moi, le directeur général, il est en train de parler au président, puis le président dit, ouais, notre entreprise, elle ne va pas vraiment bien. Je regarde les 10 grosses entreprises comme nous, en grandeur du Québec, on arrive avant-dernier, puis le directeur général qui dit, ouais, je le sais, mais nous, on a fait nos choix. Ouais, je t'annonce qu'il y a un changement de garde demain matin.
On a fait des choix de gaspiller votre argent pour engager des gens qui ont des salaires à au-dessus de 100 000 $ absolument pour rien, incluant le bureau de projet du tramway qui continue à payer des gens au-dessus de 100 000 $.
Mais des erreurs, Joey, tout le monde en fait. C'est à partir du moment où tu n'es pas capable de les admettre, à partir du moment où tu n'es pas capable de prendre la roue là, pour essayer de remettre ça droit, le paquebot, il faut le remettre droit, il faut l'enligner, c'est ça qui m'inquiète. Pas capable d'avoir un retour en disant, savez-vous quoi? Effectivement, on a pris acte des audits de performance. On est avant-dernier. Puis l'année prochaine, s'ils le refont, vous allez voir qu'on va grimper dans le classement.
Exactement.
Même pas capable de répondre ça. Ce qu'elle dit, elle, puis on entend beaucoup d'incompétence dans ce qu'elle dit, là, c'est on a pris acte des chiffres, mais nous, on a fait nos choix. Ça veut dire qu'elle n'a pas du tout compris vers où la population veut que le RTC s'en aille. Là.
Absolument pas. Puis ça, ce que tu pointes là, c'est vraiment une des pierres angulaires. Parce qu'on dit souvent, tu sais, j'écoutais, je pense que c'était le président de la Fédération des journalistes du Québec, je crois, qui était en entrevue dans une des stations de Québec, puis il disait que c'était pas juste les médias, c'était la confiance envers les institutions qui baisse constamment. On parle des institutions gouvernementales, d'ailleurs, et entre autres. Souvent, les médias sont interreliés avec ça. Mais ça, c'est une des pierres angulaires pourquoi les gens ont de moins en moins confiance aux institutions et dans la politique en général. C'est autant dans les médias, autant dans la politique, peu importe le pays de gouvernement. C'est excessivement rare de voir des politiciens ou des médias s'excuser envers la population. Ou simplement dire « vous avez raison ». On a foiré ce coup-ci, on a fait des erreurs, on est désolé. L'humilité est une valeur excessivement rare dans la politique d'aujourd'hui et c'est ça qui la tue, selon
mais
moi.
Mais est-ce que ces gens-là qui sont au pouvoir, là, que ce soit les politiciens ou encore que ce soit les boss qui travaillent pour des organismes publics, là, est-ce que ces gens-là sont dans un microcosme puis ils ont l'impression qu'ils vont se faire juger sévèrement? Je sais pas. Moi, de mon côté, quelqu'un qui admet qu'ils ont erré dans la dernière année puis qu'ils vont tenter de s'améliorer, de mon côté, j'ai tendance à y donner une deuxième chance.
Oui, c'est ça, mais c'est un genre de vieux réflexe de politique. Ça date pas d'hier non plus. T'sais, c'est tout le temps, genre, surtout si t'es au pouvoir, soit au provincial ou dans une ville ou quoi que ce soit, t'sais, si tu reçois un rapport accablant, souvent t'essaies de balayer ça du revers de la main en disant « Ouais, mais on fait de l'amélioration aussi. » Puis ça, t'essaies de défendre un peu ton administration. Puis à la limite, c'est un peu normal. Mais à un moment donné, quand t'es rendu justement avant-dernier, puis que tu dis « Ah non... est-ce qu'on pourrait faire mieux, Monsieur Marceau? Mais est-ce que, tu sais, on essaie de faire... On pourrait faire mieux, mais je pense qu'on fait quand même très bien. Fait que, tu sais, c'est tout le temps des affaires comme ça, tu sais, puis je trouve...
Il y a eu un dossier à Beauport où il y a une piste cyclable, là, ils ont complètement massacré la nouvelle piste cyclable. Là. Je pensais que c'était un hommage à la Marmotta, là. Je me suis dit, ils ont voulu faire une piste pour les
BMX. Une piste de MX, là, quelque chose comme
ça. Puis Denis Gravel, là, sur nos ondes, posait la question à Bruno Marchand, tu sais, considérez-vous que c'était un échec? Non, mais on ne le refera pas. Mais non, la question, c'est, considérez-vous, c'est un échec? Non, mais elle ne le refera pas. Ils sont incapables d'admettre que c'est une catastrophe. Puis en même temps que les employés, puis je me raccorde à Denis à ce moment-là, que les employés aient commencé, puis en regardant ça, il n'y en a pas un qui a dit, là, on arrête ça, là, ça n'a pas de crise de bon sens. Il y a une problématique là. Ils ont continué de la faire du début jusqu'à la fin en voyant que ça n'avait pas de bon sens.
Non, parce que c'est pas autant dans la fonction publique, de peu importe le palier de gouvernement, il n'y a pas d'incitatif à ça. Tu sais, quand tu veux faire des changements, on a mis telle affaire, elle dit non, ça a toujours été fait comme ça. Puis il y a des organigrammes qui ont été préfaits de même, puis de ci, de ça, puis il faut respecter la volonté de tel fonctionnaire. Puis c'est tellement justement. Pas du tout. Il y a tellement très peu de capacité d'introspection dans ces milieux-là, c'est vraiment flagrant.
Mais est-ce que tu penses qu'à un moment donné, on va revenir à ça? Un dirigeant
qui va... Le réel va revenir au grand galop. Là, ouais. C'est, à un moment donné, c'est tu peux bien pousser la wrecking ball d'un côté, mais à un moment donné, la gravité va faire son tour, puis on va venir t'en farcir dans la face. C'est le principe de l'élastique. Là. Fait que je pense que plus on attend... Ben regarde, on le voit avec le système de santé, puis on l'a vécu durant la pandémie. Écoutez, on n'était pas prêt du tout. Autant, on n'a pas fait les réformes qu'il fallait dans bien des égards, autant au niveau des lits, au niveau des places, de comment l'organigramme du système de santé est fait. Puis ça a duré des décennies de temps, malgré les 36 millions de réformettes qu'on a essayé de faire de l'intérieur qui n'ont jamais nécessairement marché. Puis ça nous a sauté d'en face durant la pandémie. Même après 2 ans et demi, on n'a pas de rétrospection. On se dit, c'est mon hashtag, c'est mondial. Puis, tu sais, on n'ose pas se regarder. Tu sais, il n'y a toujours pas de commission d'enquête sur la gestion de la COVID-19 au Québec encore, là. Comme dit François Legault durant la campagne de 2022, c'est des vieilles histoires.
C'est des vieilles histoires. Mais tu sais quoi, les groupes d'opposition ont dit, si nous, on arrive au pouvoir à un moment donné, c'est sûr qu'on va faire cet examen.
J'ai déjà entendu ça le souvent.
Mais, tu sais, j'écoutais hier la Geneviève Biron. Geneviève Biron, c'est l'arme secrète de Christian Dubé. C'est la nouvelle PDG de l'Agence de santé du Québec. Elle n'avait aucune réponse pratiquement pertinente à donner à Patrick Lagacé. Puis c'était gênant. Puis cette femme-là, elle a été embauchée pour ses compétences. On nous dit c'est une top gun, incapable de dire comment elle va redresser le système de santé alors qu'elle est en poste depuis plusieurs mois.
C'est une parure. Puis je trouve ça plate, Mme Biron, parce que vraiment son entreprise, ce qu'elle a fait, c'est une femme intelligente, puis tout ça. Mais là, ce qu'on a fait, c'est qu'à la fois, la CAQ ne veut pas donner une partie de leur lunch électoral au Parti conservateur du Québec. Ils ont promis les fameux 2 hôpitaux privés qui sont finalement transformés en 2 cliniques privées. Finalement, ça va être 2 cliniques gériatriques. Fait que ça, puis finalement, on attend toujours qu'ils se fassent créer. Ils n'ont pas été ouverts encore, du moins pas à ma connaissance. Puis là, Christian Dubé, il dit « OK, on n'a pas le choix de mettre un peu de privé parce qu'on voit clairement ce que c'est ce que les Québécois veulent. » Il y a un sondage de la CSN de cette semaine qui dit carrément qu'il y avait un Québécois sur 2 qui reniait de vouloir prendre un rendez-vous avec un spécialiste parce que ça allait être trop long. Puis il y a quasiment le 3/4 qui disait qu'il était d'accord que le privé devait avoir plus davantage de place en santé. Fait qu'est-ce qu'on fait? Là, on peut pas commencer, tu sais, un peu comme Legault disait, ils n'ont pas la canisse à courage pour vouloir partir en guerre contre les syndicats pour faire les réelles réformes. Ils n'ont pas de courage à CAQ. Oublie ça, c'est une agence de com' déguisée en parti politique. Fait qu'est-ce qu'ils font? Ils engagent Geneviève Biron, puis ils mettent une nouvelle couche de crémage par-dessus tout le reste dans la fonction publique, Santé Québec, que là, c'est comme si tu dirais, OK, on a une cour, tu sais, j'ai une cour arrière chez nous, faut que tu fasses le ménage, tu sais, ça a l'air quasiment d'une swamp, ça n'a pas de bon sens, il y a du stock partout. Geneviève Biron, faut que tu nettoies ça. Mais là, tu as lance dans le cours, puis là, il y a deux, trois sous-ministres qui arrivent. Oui, Madame Biron, l'affaire, on vous a fait un petit enclos à chien. Puis, c'est à peu près la grosseur, à peu près le dixième de la grosseur dans le cours. Vous avez le droit de nettoyer, mais juste dans ce bout-là. Ben, comment ça? Ben, c'est ça. Fait que quand elle a dit cette semaine qu'on va essayer de sauver $1 milliard dans le système de santé, good, je suis d'accord. Mais $1 milliard dans le système de santé, c'est 5 jours sur les 60 milliards qu'on dépense en année longue. Fait que c'est comme si tu me disais, on va aller manger dans un buffet à soir, Marceau. Je te donne, mettons, une petite amuse-gueule, une petite entrée de je sais pas trop quoi, là, de tartare de je sais pas trop quoi. Tu te dis, ben, c'est bon ça, peux-tu en prendre d'autres? Non, c'est tout ce qu'il y a.
C'est fini.
C'est merveilleux, merveilleux. Ah, mais on sert du privé, là. Voyez-vous, le privé fait du ménage. Ouais, mais allez, prenez pas pour des caves, là. Sérieusement, là. Fait que, tu sais, si Christian Dubé avait réellement voulu que Geneviève Biron fasse royalement le ménage, il n'aurait pas mis 2-3 sous-ministres avec elle pour comme l'encadrer dans ses fonctions. Exactement. Il aurait dit, garde, voici ton mandat, t'as les pleins pouvoirs, mais du moins, t'as mon 100% de mon soutien, go for it. Et ça, ça aurait été vraiment honnête et réel pour de véritables changements. Mais là, je l'écoutais cette semaine avec Patrice Moy à Radio-Canada. Il a répondu aux questions des auditeurs, puis le trois quarts de ses réponses, c'était « on va régler ça dans la négociation avec la FMOQ, on va régler ça avec les médecins, avec la négociation ». J'ai déjà entendu ça sur le sous-guetant Barrette. Puis toutes les fois, on pense que c'est les solutions miracles qui vont sortir des négociations syndicales. Je vous confirme qu'après 25 ans, c'est toujours pas arrivé, puis ça n'arrivera pas.
Ouais. Ah non, c'est un asile. Comment t'as trouvé ça, l'épisode de Tout le monde en parle avec les fameux mâles alpha, de voir que bon, ça a commencé...
Plutôt le mâle alpha, parce qu'ils n'ont décommandé un.
Ouais, ça a commencé sur TikTok où une jeune femme qui est une sexologue qui vend aussi des dildos sur TikTok a dit « Je trouve ça inconcevable qu'on amène des mâle alpha, tout le monde en parle. » Il y avait un documentaire qui avait été fait. Moi, j'ai reçu le gars qui a fait le documentaire il y a deux ou trois semaines.
Simon quelque chose, je pense.
Oui, Simon. Puis tu sais, je veux dire, c'est très pertinent là, de parler de ces nouveaux jeunes-là qui ont comme idole des gars qui sont à la limite très, très toxiques. Tu sais, moi, j'adhérerais jamais à ces affaires-là.
Non, moi non plus.
Je regardais le phénomène Andrew Tate, je regardais ce qu'il faisait, je regardais, il promouvoit l'entrepreneuriat, ça c'est cool. Mais ce qu'il disait par rapport aux femmes et tout ça, je décrochais assez facilement. Mais de voir que ça a commencé par des filles qui disaient « Non, non, on veut pas que ce gars-là ait à tout le monde en parle », ils ont fait une pétition, ça a été repartagé par une influenceuse qui avait énormément de reach sur les réseaux sociaux. Et là, 25 000 personnes ont demandé à l'émission Tout le monde en parle de ne pas recevoir un individu. Finalement, Tout le monde en parle a plié. Ils en ont pris un autre à la place qui faisait partie du documentaire, mais qui n'avait rien à voir avec les mâles alpha. Je trouve que ça me fait peur. Moi, je prône la liberté d'expression. Je veux entendre des gens avec qui je ne suis pas en accord à la télé. Entendre des gens avec qui je suis en accord à la télé.
Ça montre tellement qu'on est sensible à tout autre type de discours. Puis, écoutez-moi bien, là. T'sais, je ne suis pas... J'ai écouté le documentaire Alpha, j'ai écouté le segment Tout le monde en parle aussi, puis bien évidemment, on voit que les gars sont quand même sharp. Là, c'est pas des « Hey, le gros B, nanana! » Le gars sont quand même brillants. Est-ce que j'adhère avec la majorité de leurs idées par rapport aux traditionnels? La majorité sont reliées plus des traditions religieuses. Moi, j'embarque pas là-dedans. Par contre, si c'est fait de manière consentante, sans que personne soit forcé dans le fond d'une cave, c'est leur choix. Là. Les conjointes de ces hommes-là qu'on voit dans les documentaires, en tout cas, à moins qu'on apprenne dans 3 mois que c'est des femmes battues puis qu'ils ont été forcés de dire ce qu'ils disaient, à date, ils ont l'air d'être 100% consentantes de ce qu'ils font avec le
bébé. Il y avait du consentement, je te
suis. Pour ce qui est de Tout le monde en parle, sérieusement, premièrement, c'est les ondes publiques. On paye pour ça. Puis autant Tout le monde en parle, je trouve ça chiant. Excuse-moi de dire le terme, mais je trouve ça chiant qu'on se sert de cette émission-là comme étant l'émission de débat au Québec. Tout le monde en parle, c'est une émission de variété, non pas une émission de débat. Oui, c'était à l'époque de Thierry Ardisson sur la façon française, oui, c'était ça. Mais au Québec, on a vraiment assoupli ça énormément. L'émission que Stéphane Bureau faisait à Québécois il y a quelques années, jusqu'à temps qu'il y a la coupe, je trouvais que c'était un bon début. Par contre, je trouvais que c'était vraiment pas assez long. T'sais, il faisait à peu près 15-20 minutes par segment, puis je trouvais qu'à la 18e minute, c'est là que commençait à arriver dans le crunchy du sujet. Oh, on passe au prochain. Je suis comme, non, on était dedans, là. Restez, une autre 15-20 minutes. Mais c'est ça. Mais écoutez, je trouve tellement que c'est stupide. Moi, je suis dans la politique que les discours extrêmes, ils vont se... Faites confiance à l'intelligence des gens. Les discours extrêmes vont se ridiculiser par eux-mêmes. Écoute, Yann, t'es plus vieux que moi. Non, je te vieillis pas plus qu'il faut, mais quand même, c'est un fait véridique. Mais Raël... Il est allé une fois, Tout le monde en parle, il y a 20 ans.
Oui.
tabarouette, on s'en souvient tout encore au Québec. Pourquoi? Ouais. Son mouvement n'a pas quintuplé de grosseur depuis qu'on y a passé là.
Non.
Il a eu l'air d'un innocent. Puis ça a fait un Christy de bon show de TV.
Adil Sharkawi?
Adil Sharkawi. Fait que, invitez-les. Vous voulez un show sur la TV? Tout le monde va l'écouter. Let's go. S'ils sont si mongols que ce que vous décriez, ils vont s'enterrer eux-mêmes. Justement, en les cancellant, vous les gardez. Vous confirmez leur dire que, justement, ce sont, qu'il y a un contrôle de la société, que ces gens-là, justement, se sont, ils disent, ils ont une vérité intérieure, puis qu'on essaie de cacher la véritable vérité au grand peuple ou quoi que ce soit. Vous leur donnez raison, vous les ostracisez. La même chose avait été faite avec les gens qui se disaient conspirationnistes. Il y en a qui étaient vraiment des véritables saucés dans la gang, mais il y en avait une autre majorité qui c'était juste des gens qui posaient des questions, mais qu'on disait, on traitait de conspirationnistes à ce moment-là, qui posaient une question contre les mesures sanitaires ou par rapport aux politiques du gouvernement. Moi, je dirais au contraire. Puis garde, je suis aucunement surpris de ce qui s'est passé, malgré qu'aujourd'hui...
Mais je trouve ça dangereux, moi. Après ça,
absolument.
Après ça, ça va être qui? Puis tu jasais avec des collègues, tu sais, puis ils disaient « Ah non, mais moi, ça me dérange pas pantoute qu'on les ait cancellés. » D'autres qui disaient « Ben, ils ont raison. » Mais le jour où vous autres, vous allez avoir quelque chose à dire.
Exactement.
Sur lequel, tu sais, vous aimeriez qu'on se prononce ou qu'on connaisse un peu le phénomène. Là, vous allez être fâché parce qu'il y en a d'autres qui vont canceller vos affaires.
Exactement. Puis surtout que vous savez jamais quand est-ce votre cancellation va venir, parce que là, vous dites que vous êtes bon, vous pensez ouais. du côté de la justice et du vertueux, mais ça peut être vous du lendemain matin, puis vous le savez même pas. Ouais. Et je trouve tellement que... Je trouve ça chiant, sérieusement, parce que, écoutez...
Mais qui va décider, en bout de ligne, qu'est-ce qui doit être entendu à la télé versus pas?
Je veux pas que ce soit le gouvernement. C'est ça, l'affaire. Puis je pense que c'est pour ça tout ça aussi. Kamala Harris n'a pas été élue aux États-Unis. Il apprenait beaucoup ça.
À cette heure que ça a fonctionné, une pétition de 25 000 personnes pour qu'un invité soit pas, tout le monde en parle, ça va être quoi le prochain? Ça va être qui le prochain qui va être cancellé à l'émission?
J'espère pas, parce que, sérieusement, je trouve ça tellement chiant. Parce que là, avec les justement, ce qu'on a parlé tantôt, les jeunes de plus en plus conservateurs avec la montée de poilièvre, la victoire de Trump aux États-Unis. Les médias ont passé la semaine à tout mélanger ça dans un genre de gros melting pot. On mélange les tomates avec les ananas, de commencer à dire que là, OK, conservatisme égale masculinisme. Le conservatisme, c'est Pierre Poilievre et c'est les jeunes conservateurs qui embarquent là-dedans. Donc, Pierre Poilievre est un masculiniste. Non, sacrez-moi patience. Sérieusement, là, c'est pas parce qu'on est conservateur qu'on va voter pour Pierre Poilievre que nécessairement qu'on pense que les femmes devraient être au foyer et on est contre l'avortement ou quoi que ce soit. Là, c'est tellement... T'sais, parce que si ces gens-là veulent réellement... Parce que je trouve tellement que le documentaire... Puis je comprends, tu sais, je dis pas que... Le gars, ce qu'il a fait à Télé-Québec, c'était correct, tu sais, autant que... des groupuscules extrêmes d'un côté comme de l'autre. Vous pourriez faire des documentaires à journée longue. Allez voir le Parti communiste révolutionnaire à Montréal pour faire un documentaire sur la dérive des jeunes d'extrême-gauche. Puis on pourrait dire autant que... Parce que là, on voit ça comme disant « Hey, la horde des masculinistes s'en vient au Québec, courez vers les collines, ça n'a pas de bon sens. » Alors que c'est un microcosme considérable qu'on a moussé ça comme ça n'a pas de bon sens. Et je trouve tellement que si les médias étaient réellement curieux de savoir pourquoi les jeunes hommes et les jeunes femmes, faut pas les oublier, vote conservateur fédéral provincial au Québec. Allez donc parler à toi, à des gens à Choix FM, à Jeff Filion, à nous autres, à Yann et Frank qui parlent à des gens plus conservateurs fiscal, d'autres plus social, ben, plus national, mais pas nécessairement dans l'extrême ou dans le masculinisme, mais simplement parce qu'ils pensent à un État plus petit. Ils pensent qu'on devrait davantage focusser l'entrepreneuriat, de quoi que ce soit, baisser la taille de l'État. Pourquoi on n'est pas invité, nous, tout le monde en parle? Puis tu regardes, s'ils nous invitent pas, ils nous invitent pas, je m'en fous. Là. Tu sais, je peux vivre sans ça. Simplement que s'ils veulent vraiment savoir ce que les vrais jeunes pensent, commencez pas à aller voir des masculinistes, tabarouette. C'est une infime minorité, ces gens-là.
Mais en fait, ça fitait dans le narratif en disant...
Ah, absolument!
Il dit souvent conservateur, il va le répéter. Fait que là, les gens vont faire un lien entre...
Et ça revient à ce que je dis...
Lui et Poilievre et Donald Trump.
Et ça revient à ce que je te disais tantôt. Pourquoi tu penses que les Poilievre est moins populaire au Québec? Ça rentre là-dedans. Et là, Pierre Poilievre, là, les jeunes veulent voter pour lui, son idéologie, ça se rapproche à ce qu'on a vu que les masculinistes, Denise, as-tu vu ça, là? Poilievre puis masculiniste, c'est la même gang, là, tu sais. Fait qu'il y a tellement d'amalgame qui est faite, puis il faut dire, les gens sont plus brillants que ça. Mm. Oui, mais, tu sais, quand t'as juste Radcan ou TVA comme source d'information, puis autant qu'il y a du bon monde des deux côtés, mais c'est pas... Tu sais, c'est comme manger juste du pain à longueur de journée. Ça peut te soutenir, mais ça te prend un régime plus équilibré, selon moi.
Mais c'est weird, hein? On accepte que quelqu'un qui travaille à Radio-Canada puisse faire un lien entre un futur président des États-Unis puis Hitler... Elle n'a pas de trouble, elle n'aura jamais. Au 98.5, Jérémy Filosa qui l'a échappé en disant que la Terre était plate. Lui, on l'envoie dans un camp de rééducation. Puis on a des gens qui se disent...
Mais par contre,
un mâle alpha, puis lui, on le cancelle.
Par contre, on a Mme Clermont-Dion sur les ondes de Radio-Canada, l'émission de Marie-Louise Arsenault, qui a dit cette semaine que la raison pourquoi les femmes blanches ont voté en majorité pour Donald Trump, c'était pour garder leur privilège de femmes blanches hétérosexuelles. Ça, on réduit pas ça, par exemple. Ça. Non, ça, c'est correct. Ce n'est pas des propos extrêmes.
Mais dans
ça.
Bonne gang.
Dans bonne gang. Fait, après ça, ils se demandent pourquoi les gens n'ont plus confiance dans les médias traditionnels. I don't know.
Écoute, ils ont passé à la télé des filles qui disaient être plus à l'aise dans le bois face à un ours qu'à un homme.
Ben oui. C'est spécial parce que, tu sais, comme la
dame qui était responsable de la fameuse pétition là, sur TikTok,
oui.
La sexologue, elle a sorti, puis elle a dit dans un autre podcast, « Moi, quand je me promène dans la rue, là, je rencontre des gens des deux autres communautés, il n'y a pas de problème. Si je rencontre des gens de la communauté LGBTQ+2, il n'y a pas de problème. Si je rencontre des immigrants, il n'y a pas de problème. Mais si je rencontre un homme blanc... » Là, je commence à avoir peur.
Ah non, il y a tellement un genre de deux pas, deux mesures.
C'est écoute, weird.
Si là. Un homme aurait eu le même discours envers des femmes ou que cette femme-là, envers, mettons, des personnes hommes, mais racisées, elle serait faite planter. Écoute, ça me fait tellement penser, sans vouloir nécessairement trop mélanger les sujets, mais tu sais, l'histoire il y a quelques semaines, là, le centre de détention pour les jeunes délinquants qui avait eu de nombreuses agressions sexuelles d'éducatrices par des jeunes mineurs. Là, en tout cas, il y avait comme une histoire reliée à ça. Puis il y avait des experts, genre sociologues, je pense qu'il avait été invité à Radio-Canada, qui disait carrément que... Parce que, tu sais, on parlait de femmes majeures en position d'autorité sur des jeunes délinquants mineurs, on s'entend, mm-hmm. qui ont eu des relations sexuelles entre eux, puis certaines sont même tombées enceintes, c'est capoté. Mais on parle vraiment de femmes en position d'autorité versus des personnes mineures. Elle disait quasiment que c'était pas à faute des femmes, que c'était à faute des gars. Là, j'étais comme, attends une seconde, là. T'es en train de défendre ces femmes-là, mais si la solution, le scénario aurait été inversé, ça aurait été des hommes en position d'autorité qui auraient eu des relations sexuelles avec des jeunes filles mineures. Parce que vraiment, Karatkan, on dirait que c'est la faute des jeunes filles, ces femmes-là vont venir enceintes. Ça n'a pas de maudit bon sens.
Mais je sais pas si tu t'en rappelles, mais Gilles Proulx avait embarqué dans une affaire de même. Là. Il avait accusé la petite victime, c'était une fille.
Ouais.
Ça avait soulevé un tollé, et avec raison, là, on va se le dire. Mais c'est ça. Tu sais, d'un bord, c'est acceptable, de l'autre, ça ne l'est pas. Est-ce que c'est la fin du wokisme?
Je pense qu'on est vers le... On est,
Martineau, Martineau là, suite à son opération, bon, il a réussi à avoir une érection là, quand il a entendu « Hey, Donald Trump, fin du wokisme! » Puis je me suis posé la question, tu sais, Pierre Poilievre qui arrive, qui déteste les woke comme pas possible. C'est-tu fini, ça, d'essayer de dire « Ah, les hommes peuvent accoucher? »
Ben, je pense que le penchant commence à tourner de notre côté, sérieusement. C'est pas 100% terminé, mais... Le métronome commence à revenir vers la droite. Là,
parent 1, parent 2, on oublie ça aussi.
C'est ça. Je pense que tranquillement, ça va revenir. On le voit au niveau même de l'industrie d'Hollywood. Hein. Ils ont tellement eu, après la pandémie, des flops après flops, parce que justement, la majorité de leur contenu était très woke. On voit avec les dernières séries Star Wars, d'ailleurs, là, des Acolytes, pour ceux qui ont vu ça, là, c'était woke à côté. Même, je vous dirais qu'en tant que fan de la série, les derniers trois films étaient relativement dans cette tangente-là, puis certaines séries aussi. Mais... c'est ça. Puis là, en plus de ça, il n'y avait plus d'argent. Les scénaristes ont décidé de faire une grève à Hollywood pour quasiment double down dans le wokis. Ils se sont tirés dans le pied carrément. Et là, l'industrie, dans plein d'industries ailleurs, commence à faire des coupures radicales dans leurs employés, surtout dans les fameuses diversity hire, puis les départements de LGBT, patente truc ou quoi que ce soit. T'sais. Puis même moi, en tant que gay, je trouve que ça... faut que ça se fasse. Parce que, tu sais, il y a des films que... C'est pas une question de... On veut plus de personnes racisées ou de personnes de minorités sexuelles dans des séries ou dans des films, dans l'espace public. C'est pas ça. Tout est une question d'implémentation. De comment on l'implémente dans une série ou dans un jeu vidéo, par exemple. Le dernier en règle, gamer comme je suis, c'est Dragon Age Valguard. C'est le 4e opus de la série des jeux Dragon Age faite par la compagnie BioWare. Écoutez, il y a une cinématique de 2 minutes dans un jeu qui est de fantasy médiévale avec un personnage non-binaire qui t'explique pourquoi mégenrer quelqu'un, c'est pas une bonne affaire. Là. Alors que dans le premier opus, ouais. Dragon Age Origin, qui est sorti en 2009, il y avait des personnes... C'était avant que le mariage gay soit légal aux États-Unis. Il y avait des personnes qui étaient gay ou quoi que ce soit. Il y en a un d'ailleurs que c'était un assassin elfe, tu sais. Mais il n'a jamais dit que la première fois que tu le rencontres, hey, ben, en passant, je suis gay, nanananana. Non, non, c'est au fil de conversation, puis le gars c'est un guerrier, nanananana. Puis au fil que ton personnage, parce que ton personnage a le droit de romancer des hommes comme des femmes si tu le souhaites, tout dépendant de tes choix, et ça rentre dans la conversation, puis tu découvres qu'il l'est, tu sais. Mm. Mais c'est fait de la bonne manière, ouais, c'est pas in your face tout le temps, tu sais. Ouais. C'est fait naturellement.
Je me souviens d'un gars qu'on voit de plus en plus à la télé, Serge Denoncourt. Je ne sais pas si tu te souviens
de
Serge Denoncourt.
Un gars de gauche, mais qui n'a pas la langue dans sa poche.
Ouais, un gars de gauche, un gars qui est gay, qui est avec son conjoint depuis des années, puis qui a avoué que la communauté gay l'avait lâché, puis qu'il considérait qu'il n'était pas gay parce qu'il n'était pas assez gay.
Je seconde.
Lui, c'est un gay straight. Fait que c'est plus un bon gay selon sa communauté, puis il trouvait ça épouvantable. Et avec raison, le gars se tient tranquille, fait ses affaires comme monsieur et madame tout le monde. Il est en couple avec un homme. Il cœur pas personne avec ça. Personne l'écœure avec ça. Puis c'est sa propre communauté qui le rejette. Je trouve ça weird.
Ah ben, Éric Duhem a vécu le même traitement quand il avait sorti son dernier livre en 2017.
Éric Duhem, c'est reconnu. C'est le chef, c'est le grand chef des homophobes.
Ben oui! La joke qu'on dit souvent, c'est que moi ou Éric Duhem, c'est qu'on est des ultra-masculinistes parce qu'on aime les hommes en plus d'être conservateurs. Fait qu'on est quasiment une coche au-dessus. Mais sans joke, c'est tellement... Puis regarde, j'en ai fait, on a parlé plusieurs fois, toi puis moi, dans mes différentes interventions passées, à quel point le mouvement LGBT est vraiment déraillé complètement. Puis je trouve qu'il me représente de moins en moins. Il y a de plus en plus de personnes LGBT
mais
comme moi.
Je trouve ça triste parce que vous étiez une belle communauté tissée serrée. Oui. Tu sais, vous vous défendiez les uns les autres. Puis ce mouvement-là avait sa raison d'être, puis ça a fait progresser les choses. Puis les gens, ben, tu sais, moi, j'aime pas le mot acceptation parce que techniquement, on est... On n'a pas besoin de vous accepter,
ce qu'on est, là,
vous êtes
ça.
Dans notre société, vous faites partie de la gang, là. Mais ce groupe-là a participé justement à l'acceptation, entre guillemets, puis ça a bien fonctionné. Là, c'est rendu des gens de votre communauté qui sont trop straight, qui se font quasiment tasser parce que vous n'êtes pas assez gay. Je trouve ça complètement débile.
Puis on invente des histoires stupides. Écoute, suite à mon intervention dans le reportage de Radio-Canada en début de semaine, ils ont interrogé Mme Annie quelque chose, en tout cas, elle est prof de sociologie au Cégep Garneau.
Oui.
Puis on l'a questionné à Radio-Canada pour savoir, puis elle a parlé indirectement de moi. Parce que c'était écrit dans l'article que j'étais ouvertement gay et conservateur. Puis elle disait en gros que comme les femmes aux États-Unis qui ont voté pour Trump, ils font partie de ce qu'elle appelait du patriarcat inversé. C'est qu'elle dit, vu qu'on peut pas battre le patriarcat, ils ont décidé carrément de se soumettre puis de rejoindre la majorité au-delà de leurs droits, comme si justement on serait une gang de soumis, puis on a décidé d'embarquer avec la pensée dominante au-delà de notre cause, comme dans mon cas, ça serait la cause gay, j'assume, ouais. Là, tu sais. Puis je trouve ça tellement insultant, comme si...
Annie Cloutier,
c'est ça. Puis elle disait aussi des trucs comme, tu sais, hey, les jeunes, sont... tu sais, les jeunes, là, quand ils sont jeunes, ils n'ont pas toutes les informations encore, tu sais. Puis, là, tu sais, ça se peut qu'ils osent aller dans une pensée qui met en faveur la compétition, puis l'entrepreneuriat, puis le capitalisme. Hey, ça n'a pas de bon sens. Yann, voyons donc, en 2024, que des jeunes pensent comme ça. Hey, c'est fou, braque. Puis je trouve ça tellement insultant que c'est quasiment rendu qu'on casse tellement de moules. Puis tu sais, j'ai arrêté. Je pense que le plus grand cœur de pourquoi beaucoup de gens se retournent vers les conservateurs, au-delà des questions économiques qui sont primordiales, c'est vraiment toute cette vision de ce qu'ils appellent aux États-Unis la identity politics, c'était tout relié ça à la race, au clan, à l'orientation sexuelle, puis de cible de ça. Ah, pourquoi les hommes latinos ont voté pour Trump? Pourquoi les femmes de ci? On est tous des êtres humains. Écoute, regarde, il y a un an, là, la fameuse chanson North of Richmond, je ne me rappelle plus de son nom, en tout cas, le chanteur très peu connu. C'est ça. Qui était un no-name, qui était devenu super connu. Regarde, allez voir sur YouTube. Il y a des centaines de réactions à cette chanson-là. De personnes de toutes les couleurs de peau, de tous les sexes, de toutes les origines qui réagissent à ça. Puis il y en a plusieurs qui chialent. Même chose avec la chanson Hurt de Johnny Cash. Il y a un vieil homme hétérosexuel américain. S'il y a bien un homme que t'es pas censé te retrouver dans ses paroles, c'est bien comme lui. Il y a des vidéos du monde en Inde, aux États-Unis, des Africains qui braillent comme des madeleines en entendant cette tune-là. Parce que c'est vrai, c'est tragique comme chanson. Parce qu'à un moment donné, on est tous des êtres humains.
Richmond, North of Richmond, c'est Olivier Olivier Anthony.
Oliver Anthony, exactement. C'est ça. Fait que, tu sais, on est tous des êtres humains. On est tous capables de faire preuve d'empathie envers son prochain. Oui, je comprends que certaines communautés ont des réalités culturelles différentes des autres, bien évidemment. Le but, c'est pas de whitewasher tous les gens puis les rendre uniformes. Mais arrêtez avec vos affaires claniques de quoi que ce soit. Je connais les gens qui sont relativement de mes idées. Il y en a de toutes les couleurs, de tous les sexes, de toutes les orientations sexuelles que vous pouvez imaginer. Puis croyez-moi, des gays ou des lesbiennes conservatrices, conservateurs, il y en a pas mal plus que vous pensez. En France, le Rassemblement national de Marine Le Pen et même le Parti Reconquête d'Éric Zemmour, ils ont le plus haut taux de personnes homosexuelles dans leur rang. Supposément, c'est un parti supposément néo-nazi d'extrême droite. Mais c'est rendu que, justement, il y a tellement de dérives au sein de la gauche par rapport à ces mouvements-là qui nous disent de nous représenter, un peu comme le Conseil du statut de la femme, qui ont pris une personne transgenre pour être comme leur présidente. Je ne sais pas si c'est encore le cas. D'ailleurs, je n'ai pas fouillé là-dessus.
Ça fait 2016.
2016, ça fait plusieurs années quand même. Mais tu sais, le fait qu'on s'est rendu là, c'est qu'à un moment donné, c'est carrément ce que le fameux meme qu'Elon Musk avait publié en 2021. T'sais, les gens n'ont pas bougé de la ligne. Comme dirait Frank, le centre-gauche d'hier et l'extrême droite de demain. Mais la gauche a tellement poussé ailleurs que on est tellement rendu loin de nous autres que pour
qu'elle voit le centre comme des extrêmes.
Ben, carrément.
Ouais. Hey, Joey Aubé, on va te donner un petit break. On va faire quelques minutes de pause, si tu le veux bien. Je vous rappelle qu'on est avec Joey Aubé de Génération Ambition. Pour les gens qui veulent en savoir plus sur le mouvement Génération Ambition, vous tentez de rejoindre des jeunes entre 18 et 34 ans?
Oui, allez sur notre site mouvementgénérationambition.com si vous voulez adhérer ou prendre votre carte de membre. Sinon, Génération Ambition, on est sur toutes les plateformes disponibles possibles. Twitter, Discord, Instagram, TikTok, Facebook. Donc, partout, peu importe où c'est que vous êtes, on a une page ou on a un groupe où on fait des publications. Donc, suivez-nous là-dessus.
Très courte pause, on vient.
Marceau, le soir. La semaine, on jase de ce qui se passe chez toi.
Juste te faire un aparté, puis tu me vois travailler, je dis, mais qu'est-ce qu'il fait, Marceau? Pierre Fitzgibbon démissionne. Ouais. Et, je veux dire, on s'y attendait pas.
La fin de semaine, on laisse la musique parler. De 7 à 10, on se la joue MTV Unplugged. Avec le Rock and Chill. À 10h, L.O. Derry tourne le meilleur rock de 90 à aujourd'hui. À 15h, Reg Laplanche et Matt Marcotte débarquent avec un paquet d'anecdotes puis de succès bien rétro.
On va vous jouer un bon vieux rock. Bien rétro.
Ben, du temps qui était à la TV, là. Boulevard 102.1. Tes sujets, ton rock, ta radio.
Acheter un panier d'épicerie virtuel au profit de la campagne Un Noël sans fin du Petro-Rocamadour, c'est faire notre part ensemble pour diminuer l'insécurité alimentaire de milliers de familles et de personnes seules de Limoilou. Boulevard 102.1 vous invite à donner généreusement en cette période de partage et d'amour. Le Petro a besoin de vous et de votre grande générosité pour apporter du réconfort toute l'année aux gens qui font face à ce défi au quotidien. Achetez un panier dès maintenant sur le site Internet du Petro.
La Polestar 3 2025 arrive en ville. Un tout nouveau VUS 100% électrique, 100% génial. Disponible maintenant à l'espace Polestar Ville de Québec, rue Cyril-Duquette.
Venez à nos portes ouvertes des condos locatifs L'Allier à Lévis le 17 novembre de 10h à 16h sur la rue André-Caz. Profitez d'une visite guidée des condos modèles et surtout de promotions exclusives. Ne manquez pas cette occasion unique. Pour plus de détails, visitez votreallier.com.
Bienvenue au service à la clientèle. Pour tenir des propos diffamatoires, faites-le 1. Pour passer des commentaires haineux, faites-le 2. Pour crier ou injurier quelqu'un, faites-le 3. Pour ruiner la santé psychologique de l'un de nos agents, faites-le 4.
La violence psychologique au travail ne devrait jamais être une option. Employeurs, travailleuses et travailleurs, agissons pour éliminer les risques pour la santé psychologique dans nos milieux de travail. Un message de la CNESST.
Chez Pièces d'auto économiques, nos pièces d'auto sont économiques. En plus, notre service est pas pire, ça a l'air. On a même 9 magasins partout au Québec, dont un nouveau à Drummond. Passez-nous voir pour être sécuritaire avec l'hiver, le froid et la noirceur. Pièceséconomique.com.
Visitez le plus grand centre de décoration de Noël au Canada et offrez-vous un temps des fêtes unique. Noël à Mel, vous serez emballé. Maintenant ouvert tous les soirs en semaine jusqu'à 21h.
Transformez votre journée en jour de casino. Jouez au jackpot, jeux de table en direct et plus. Découvrez les machines à sous les plus populaires comme Book of Dead et Immortal Romance ou jouez à la roulette, au blackjack et bien d'autres à Casino Days. Ouvert à tous les joueurs, 18 ans et plus, ce site vous permet de vous amuser gratuitement. Veuillez jouer de manière responsable.
Imaginez, c'est la tempête et vous êtes tout emmitouflé en embarquant dans votre auto où il fait encore froid.
Mais votre voisin, lui, est bien au chaud dans son Toyota BZ4X 100% électrique. Ah. Eh oui, son système de chauffage peut être activé à distance. Vous dites, ça devrait être moi. Oui, ça devrait. Quand c'est le temps de faire face à l'hiver, c'est l'heure Toyota. Réservez un essai routier sur achetermatoyota.ca ou visitez votre concessionnaire Toyota du Québec.
Les optométristes répondent à 180 000 urgences par année. Partout au Québec, ils sont en première ligne pour veiller à la santé oculaire de toute la population. Et ils ne cesseront jamais de le faire. Mais si le gouvernement continue à ne pas les reconnaître à leur juste valeur, sans voir que, sans eux, ça lui coûterait les yeux de la tête...
Aïe aïe!
Ben, c'est ça. Il se met le doigt dans l'œil. Un message de l'Association des optométristes du Québec.
Au Cochon d'Inde, les rabais appartiennent à ceux qui mangent tôt. Du lundi au vendredi, de l'ouverture jusqu'à 9h30, profite d'une sélection de délicieux déjeuners pour seulement 11,95 $. Café de spécialité ou café filtre, tous deux sont inclus pour bien débuter la journée. Fais du Cochon d'Inde ta nouvelle habitude matinale. Cochon d'Inde, le rendez-vous gourmand pour les lève-tôt. Tous les détails en succursale.
OK, alors on commence avec les meilleures offres locales au meilleur prix. Choisis et négociez pour vous par Mercado.fm.
Obtenez un chèque cadeau d'une valeur de 100 $ à 50 $ chez Boutique au 7e ciel.
Adjugé. Prochaine offre.
Obtenez un massage de 30 minutes d'une valeur de 90 $ à 45 $ chez Infinima Spa.
Adjugé à monsieur, madame qui écoute la radio dans son auto, au boulot, n'importe où. Divertissement, soins, hébergement, restaurant. Mercado.fm.
C'est la liquidation totale chez Nissan. Et le mot total n'est pas accessoire ici. Tous les modèles Nissan 2024 doivent partir. C'est votre chance d'obtenir un taux de location avantageux sur le Nissan Kicks et sur le Ariya 100% électrique et de louer la Sentra et le Rogue à partir de 0,99%. Ou vous pourriez profiter d'un crédit de 800 $ sur des pneus d'hiver sur modèles et versions sélectionnés. De plus, les clients admissibles ont droit à un boni de fidélité de 500 $. La liquidation totale, ça se passe maintenant. Venez-vous-en. Jusqu'au 2 décembre, sur approbation de crédit, des conditions s'appliquent. Détails chez Nissan.
L'application Boulevard. Dans une poche près de chez vous. Poche de jeans. Poche de short. Puis même ta poche de hockey. Appelez, textez, votez, réécoutez. L'app Boulevard 102.1.
C'est plus que du rock.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Joué au B de Génération Ambition est avec nous ce soir. Il me restait quelques questions à jaser avec toi. Tiens, je vais commencer rapidement. Bon, le Trump a été élu aux États-Unis. Mm-hmm. Visiblement, si on a des élections demain matin, Pierre Poilievre prendrait le contrôle du Canada. Au Québec, c'est assez particulier, là. C'est le Parti québécois qui prendrait le pouvoir. On s'entend que c'est peut-être une réaction, je ne sais pas, on voit toujours les Canadiens contre le Québec. Mais est-ce que ça pourrait aider, avec un Pierre Poilievre à la tête du Canada, ça pourrait-tu aider Éric Duhaime?
Je crois que oui. Est-ce que ça va être plus subtil, j'ai l'impression, parce que le problème du Parti conservateur du Canada, ben, je dirais plus, non, je vais formuler ma réponse. Le problème avec le caucus québécois du Parti conservateur du Canada, ou du moins la vision qu'ils ont de leurs représentants au Québec, c'est qu'ils pensent encore que la CAQ sont les conservateurs officiels, l'aile provinciale du PCC au Québec. Autant que oui, il y a plusieurs caquistes qui sont également membres du Parti conservateur du Canada, mais je pense qu'il va falloir à un moment donné, comme dans les autres provinces canadiennes, qu'ils se rendent compte que non, c'est le PCQ qui l'est. Là. Surtout si la CAQ tombe de 86 à 6 députés, là, je pense qu'ils n'auront pas le choix. Mais écoute, je pense que le autant que moi tout, j'étais incertain, ça va comment ça? Autant qu'il y avait une grosse, il y a encore d'ailleurs une grosse écœurantite envers la CAQ, et beaucoup de gens se sont parqués, donc 25% qui ne sont même pas souverainistes à vouloir voter pour le Parti québécois parce qu'ils voient, pas nécessairement parce qu'ils adhèrent à ses idées, simplement parce qu'ils voient que c'est le parti en ligne qui a le plus de chances de mettre la CAQ dehors. Puis je les comprends. T'sais, écoute, en 2018, on s'entend qu'on n'a pas voté pour François Legault, on a voté contre le Philippe Couillard pour plusieurs, on ne se le cachera pas. Mais on a vu que c'était peut-être un géant au pied d'argile parce que quand il y a eu le sondage il y a quelques semaines pour la course à la chefferie du Parti libéral du Québec, Puis on a demandé, sous un parti libéral dirigé par Pablo Rodriguez, si des gens voteraient pour lui. Là, tout d'un coup, une bonne partie de ce fameux électorat péquiste-là, whoop, ça s'en va vers le PLQ sous Pablo. Donc on voit que ça peut être un vote. Surtout que le PQ a piqué dans les sondages, selon moi, beaucoup trop tôt. Souvent, on veut que ça pique avant les élections et non pas deux ans avant. Donc je pense que ce n'est pas une bonne nouvelle pour eux. À eux de s'arranger pour qu'ils gardent leur électorat si c'est possible de le faire. Mais justement, le fait qu'il y ait un électorat très volatile, c'est une flingue d'opportunité pour plein de partis. Mais là, présentement, je pense que...
Parce qu'Éric Duhem plafonne entre... Ben, le Parti conservateur du Québec plafonne entre 11, 12, 13, 14 %.
Ouais.
Pour ce qui est de Québec solidaire, c'est à peu près la même affaire depuis des années, tu sais, 15 %.
On attend encore le recentrage, hein, depuis le fameux coup d'État de JND.
Ouais, ça se fera pas. Ça se fera pas. Je pense que ça va être le départ de JND. Moi, aux prochaines élections, je m'attends à ce qu'ils partent. Il y aura peut-être une course à la co-direction de Québec solidaire.
Imagine-tu.
Puis lui, dans un an, va se joindre au Parti québécois.
Non, je le verrais plus à la mairie de Montréal, moi.
Je mettrais un quelques dollars là-dessus.
OK. Ouais, Non, mais t'imaginerais-tu, là, c'est Ruba Gazal qui est la nouvelle co-porte-parole féminine. Imaginerais-tu Haroun Boisy et Ruba Gazal? Le QS tombe à 4 % peut-être.
En tout cas, il n'y aura plus de gauche à Québec solidaire, ça va être fini.
Ben surtout qu'ils l'ont dit depuis les élections partielles. Ouais. C'est le no-saucisse zone pour le Québec solidaire. Mais pour venir, c'est ça. Je pense que justement, l'électorat volatile fait que il y a une porte d'opportunité, puis là, je vais être un peu plus partisan ici, pour le PCQ, tout va dépendre vraiment de qui va être le prochain chef du Parti libéral du Québec. Personnellement, ça, c'est mon côté partisan, Pablo.
Mais Pablo, ça va être Montréal. Ce ne sera pas Québec, ce ne sera pas les régions.
Je le sais.
Ce ne sera pas la Gaspésie, Pablo. Là. Ce ne sera pas
Côte-Nord. Je le sais. Et c'est pour ça que je te dis que c'est mon côté partisan. Parce que si Pablo rentre au pouvoir, rentre chef du Parti libéral du Québec, puis à date, les grands médias ont l'air de tomber en amour avec. Là, je l'appelle le candidat préfabriqué, Playmobil de nos médias, Pablo Rodriguez. Là. Mais si c'est lui que les militants libéraux décident d'élire, on voit que c'est un gars très progressiste, très montréalo-centrique. Excuse-moi, mais il va mettre ce parti-là à terre, puis il va pas rallier le vote francophone, puis qui va venir chercher son lunch? Le Parti conservateur du Québec.
Parce que Pablo va avoir à défendre son bilan là, au fédéral, puis le bilan au fédéral, mettons, économique, là, c'est une catastrophe. Et puis les libéraux au Québec ont toujours été considérés comme des gens qui étaient capables de gérer l'argent des Québécois, alors qu'au Canada, ça a été la flambée.
Parce que